C'est la rentrée des classes. En tous les cas, après-demain, ça sera la rentrée des classes. Après 2 semaines de vacances de la Toussaint, une rentrée placée sous le signe de la tension. Après 2 semaines agitées, à la fois sur la question des violences scolaires, après la vidéo montrant un adolescent menaçant sa professeure avec une arme factice, ce qui a provoqué un hashtag d'enseignants en colère, et puis aussi sur le plan des inégalités avec la publication la semaine dernière d'une étude du CNESCO, le Centre National d'Évaluation du Système Scolaire, une étude qui porte sur 874 collèges public des académies franciliennes et qui met au jour l'influence des inégalités territoriales et sociales sur la réussite des élèves. Bonjour Nathalie Mons.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente du CNESCO. Vous êtes aussi professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise. Alors on entendait dans la fin du journal de Kevin Baudreau cette journée européenne de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Rassurez-nous, en matière scolaire, les professeurs femmes sont payés autant que leurs collègues masculin ?
Oui, tout à fait. C'est un des plus de la fonction publique, évidemment. C'est qu'il y a des grilles salariales et tout le monde est payé au même niveau. Mais d'ailleurs, ces différences aussi par rapport au privé expliquent qu'il y a une très forte féminisation du corps enseignant. Ça, c'est une autre enquête qu'avait menée le Conseil national d'évaluation du système scolaire. C'est que finalement, ces salaires qui restent limités dans le public par rapport à ceux qui peuvent être offerts aux hommes dans le secteur privé explique aussi une partie de la féminisation grandissante de l'enseignement en France. Voilà. Alors, donc ça n'est pas anodin.
Ça n'est pas anodin, mais ces différences ne sont pas toujours vertueuses. On le voit en particulier quand on lit votre étude, Nathalie Mons, sur les inégalités sociales et territoriales. On le voit aussi en matière de violences scolaires, et peut-être les choses sont-elles liées. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le système scolaire est à bout de souffle, ou c'est un peu fort?
Bah, c'est certainement un peu fort. Pour autant, on voit maintenant tout un ensemble de problèmes. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire avait fait, il y a 2 ans, 2 rapports qui, je pense, ont été marquants sur les inégalités sociales à l'école, sur les problèmes de mixité. Aujourd'hui, nous revenons aussi avec des chiffres alarmants sur les inégalités territoriales.
C'est ça la grande nouveauté.
Voilà.
Qu'on ne savait pas.
On arrive vraiment maintenant à un dessin de notre système éducatif qui nous montre que il faut continuer à agir quand même avec beaucoup de volontarisme.
Le système n'est pas à bout de souffle, mais quand même, ce que nous dit l'étude, c'est que l'égalité des chances n'existe pas, Nathalie Mons.
Que finalement, on vit sa scolarité de façon très différente selon l'endroit où on habite. Ce qui est tout de même alors un élément que les gens malheureusement connaissent sur le terrain. Lorsque vous allez faire par exemple un reportage en banlieue, à Sarcelles, à Trappes, les gens savent qu'il y a des enseignants jeunes, qu'il y a de nombreux contractuels, que les résultats ne sont pas les mêmes. Mais ce que l'étude met sur la table, ce sont des chiffres. Pour la première fois, on chiffre de façon extrêmement précise les différences entre les beaux quartiers et entre les territoires les plus défavorisés. Donc pour la première fois, finalement, on met en avant des inégalités de traitement en termes de scolarité, en termes de ressources éducatives, selon les territoires, des inégalités de traitement qui ne sont pas acceptables.
Vous ne vous êtes pas concertée avec la Cour des comptes, Nathalie Mons, avec le CNESCO, mais il n'empêche que votre étude a été rendue publique à peu près au même moment qu'a été rendu public un rapport de la Cour des comptes, juste quelques jours avant, sur le bilan négatif de la politique d'éducation prioritaire, cette politique née en 1981 avec les ZEP, devenue REP aujourd'hui. Et à vrai dire, les choses ne sont pas du tout satisfaisantes dans un cas comme dans l'autre. Et on peut là parler d'échec des politiques d'éducation prioritaire.
Est-ce qu'on peut parler d'échec ou est-ce qu'on peut se dire que à côté de ces politiques d'éducation prioritaire, il aurait vraiment fallu entamer également des politiques de déségrégation à l'école. Les politiques de déségrégation à l'école, c'est quoi ? Ça vise à faire en sorte que des écoles très ségrégées, c'est-à-dire qui rassemblent énormément d'élèves en grande difficulté sociale et donc scolaire, voient arriver des élèves d'autres publics. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est une politique qui a manqué hein, sur les 30 dernières années. Alors que ces politiques de mixité sociale à l'école, elles se développent très largement à l'étranger depuis les années 90. Alors, historiquement, par exemple, aux États-Unis, avec les grandes politiques hein, de mixité dites raciales, hein, voilà, pour mélanger hein, les populations noires et blanches. Mais dans les années 90, dans les pays nordiques, en Angleterre, hein, on se rend compte que lorsque l'on rassemble énormément d'élèves qui ont le même profil social défavorisé, eh ben, tous les moyens que l'on met au service de l'école ont un impact très limité. Parce qu'en fait, le fait de rassembler des élèves avec des profils sociaux identiques, voilà, ralentit hein, tous les efforts éducatifs. Et ça, la recherche nous le montre.
La recherche vous montre cela. La recherche vous montre aussi, effectivement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, la part très importante de contractuels, c'est-à-dire des professeurs qui sont souvent embauchés sans formation particulière, sans expérience, dans des quartiers particuliers que sont les quartiers de la banlieue francilienne, puisque votre étude a porté sur l'Île-de-France. 18% de contractuels contre 5% dans les quartiers aisés, en particulier dans le centre de Paris. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre, à vrai dire, quand on n'est pas habitué à lire les chiffres, les rapports et les études comme celle du CNESCO. Libération, cette semaine, en faisait deux pages qui étaient assez effrayantes, qui rapportaient par exemple le cas d'une caissière de supermarché qui n'avait pas eu d'études de sciences de la vie et de la terre, de biologie depuis une vingtaine d'années et qui a été recrutée comme remplaçante en sciences de la vie et de la terre en première S. Alors, vous allez me dire c'est un exemple, mais manifestement, ils sont nombreux, des exemples comme cela, et ils vont dans des quartiers qui sont des quartiers déjà défavorisés. Comment se fait-il qu'on n'envoie pas dans ces quartiers-là défavorisés les meilleurs professeurs ?
Alors, c'est vrai que ce qu'on a souhaité regarder hein, dans cette étude, ce sont finalement des ressources éducatives qui sont stratégiques. C'est d'ailleurs les enseignants. On parle souvent du nombre d'enseignants. Et là, pour le coup, on a une vraie éducation prioritaire, en ce sens où lorsqu'on regarde le nombre d'enseignants, c'est-à-dire la taille des classes, ben oui, dans les territoires les plus défavorisés, les tailles de classes sont légèrement plus faibles que dans les territoires favorisés. Mais comme vous le dites, on a voulu regarder au-delà, c'est-à-dire la qualité. Quels enseignants travaillent dans les territoires les plus défavorisés? Sont-ils jeunes ou sont-ils expérimentés? Sont-ils contractuels? Et surtout, est-ce qu'ils demeurent dans les établissements ou est-ce qu'il y a un turnover, une fuite?
Est-ce qu'ils y restent ou
est-ce qu'ils y restent ou pas? Sur les contractuels, le problème n'est pas qu'ils soient contractuels hein, ou statutaires. Le problème, ce sont les caractéristiques hein, des enseignants contractuels.
Ou les effets sur la réussite scolaire des enfants.
Et les effets sur la réussite scolaire des enfants en conséquence. Les contractuels, ce sont des personnels qui sont par définition moins formés et dans leur discipline et en pédagogie et qui en plus, comme ils sont contractuels, bougent beaucoup, c'est-à-dire rentrent et sortent du système éducatif, changent d'établissement. Donc c'est à cause de ça et finalement hein, que ça pose problème. Et c'est vrai que l'étude hein, met en avant le fait que finalement on a trois fois plus hein, de contractuels dans les territoires sociaux les plus défavorisés en Île-de-France que dans les territoires favorisés, par exemple dans les quartiers chics de Paris. Donc là, on a bien vraiment un point d'alerte. Parce que pour nous, cet indicateur, hein, ce nombre de contractuels, il est vraiment un indicateur du manque d'attractivité de certains territoires. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas recruter des enseignants expérimentés, lorsqu'on ne peut pas non plus recruter des enseignants statutaires mais jeunes, alors il ne reste plus hein, que les contractuels. Donc ça, c'est vraiment un révélateur hein, des écoles aujourd'hui qui sont en manque hein, de personnel qualifié.
Si les enseignants, Nathalie Mons, ne veulent pas y aller pour des raisons diverses et variées, est-ce qu'on peut pas imaginer de faire venir les élèves à Paris en les répartissant dans les différentes écoles ou dans les différentes classes existantes? Vous parliez de ségrégation, de moyens de déségréguer les élèves. Est-ce que ce serait pas une solution? De remélanger des élèves entre eux.
Alors, les préconisations hein, du Conseil national d'évaluation du système scolaire ne visent surtout pas hein, à faire partir les élèves de leur quartier. Je crois que tout le monde a le droit à avoir une école près, hein, près de chez soi, qui soit une école de son quartier. Hein. Donc ça, c'est des politiques d'ailleurs qui ont été testées. Hein. Il y a des politiques de busing, par exemple, qui ont été testées.
Hein, c'est-à-dire
busing, donc de transport hein, des élèves des quartiers défavorisés vers les quartiers favorisés. C'est une grande politique de busing aux États-Unis dans les années 70. Ça ne fonctionne pas parce que notamment les familles défavorisées n'acceptent pas ces transports. Et pourquoi finalement quand on est défavorisé, on serait obligé de prendre le bus, on serait obligé d'avoir l'obligation de transport scolaire pour aller à l'école.
L'idée est de développer la qualité des écoles donc, sur place.
L'idée est davantage finalement d'attirer des enseignants et puis dans les territoires les plus défavorisés et puis surtout de les garder,
c'est-à-dire de stabiliser les équipes.
Voilà, de leur donner envie. Hein, d'être sur place, qui passe. Alors, ceci passe par tout un ensemble de mesures. Hein. Alors, il y a des mesures qui sont vraiment à la main hein, de l'éducation nationale. On sait que quand ces jeunes enseignants arrivent dans des territoires défavorisés, c'est d'autant plus difficile pour eux qu'ils n'ont pas les codes des quartiers. Voilà, qu'ils ne connaissent pas hein, les élèves qu'ils vont rencontrer, qu'ils n'ont pas spécialement non plus été formés hein, dans les écoles de formation des maîtres. Ils n'ont pas spécialement été formés à traiter la difficulté scolaire. Donc là, on voit bien qu'il y a la nécessité, comme ça se passe dans de très nombreux pays, d'avoir des programmes extrêmement solides de mentorat. C'est quoi le mentorat ? C'est qu'on a vraiment des enseignants aguerris qui connaissent les quartiers, qui connaissent les territoires, qui connaissent les élèves hein, et qui sont des experts hein, en pédagogie et qui doivent accompagner pendant 3 ans, pendant 4 ans, ces enseignants jeunes pour les sécuriser. D'ailleurs, on parle vraiment de sécurisation dans l'entrée dans le métier, de sécurisation dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire de sécurisation professionnelle, de sécurisation identitaire pour les enseignants. Voilà, on sait que ces programmes de mentorat fonctionnent bien. On sait également que si on a des contractuels, pourquoi pas ? Mais encore faut-il les garder ? Faut-il avoir des programmes de fidélisation de ces contractuels ? On peut avoir des gens qui, lors de seconde carrière, ont envie hein, de rejoindre les rangs de l'éducation nationale, et tant mieux. Hein. On a de plus en plus, d'ailleurs, de ces profils d'enseignants de seconde génération, de seconde carrière, qui, notamment pour les postes hein, de professeurs des écoles dans l'enseignement primaire, rejoignent sur le tard hein, l'éducation nationale. Tant mieux, c'est une marque, en fait, de l'attractivité hein, de ce beau métier qui a du sens. Hein. Et donc, on a envie, finalement, de rejoindre parce que, bon, on a peut-être une activité dans le privé qui est moins porteuse de sens. Mais ces professionnels qui arrivent dans l'éducation nationale, ben, il faut les choyer, il faut les former, il faut les mettre à des niveaux de salaire qui correspondent aussi à leurs qualifications. Or, ces gens-là, par exemple, dans l'enseignement primaire, commencent tout en bas de la grille, comme des débutants qui ont une vingtaine d'années. Donc voilà, donc il y a, je pense, vraiment tout un ensemble de mesures qui peuvent être développées pour donner à ces territoires les plus défavorisés des professionnels de l'éducation aguerris. Parce que les jeunes qui sont dans ces territoires en ont besoin et les enseignants eux-mêmes en ont besoin. Il n'y a pas de raison non plus d'offrir des conditions de travail aussi défavorables aux enseignants dans ces territoires défavorisés. On parle des enfants, mais aussi on parle des enseignants.
Nathalie Mons, est-ce que ce que fait le gouvernement vous semble aller dans le bon sens ?
Oui, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de ces inégalités territoriales depuis une quinzaine d'années. Hein. Ne serait-ce que parce que on arrive quand même à des résultats qui sont tout à fait alarmants. On a sur ces territoires défavorisés, tout simplement, des postes d'enseignants qui ne sont pas pourvus. Donc vous avez beau créer des postes, vous n'arrivez pas à trouver les enseignants pour les occuper, hein. C'est ça des postes hein, non pourvus. Donc à partir de là, il y a une vraie réflexion qui s'est mise en place hein, dans le ministère de l'Éducation nationale pour déjà pourvoir ces postes, c'est-à-dire pour attirer hein, des enseignants. On a par exemple dans ces académies de Créteil et de Versailles qui sont extrêmement, qui ont des territoires extrêmement défavorisés, des difficultés à recruter, ce qu'on appelle des seconds concours. Hein. C'est-à-dire que par exemple, une fois que l'ensemble des étudiants qui sortent des formations d'enseignants ont passé les concours dans les académies de Marseille, de Nantes, etc., qui sont des académies de Rennes, qui sont des académies très attractives et qui n'ont pas réussi, ces étudiants ont le droit de repasser un second concours dans ces académies de façon à pourvoir les postes. Donc, il y a eu quand même, je pense, vraiment un intérêt, hein, parce qu'on était arrivé à des classes qui auraient été vides, vides d'enseignants.
Mais on a des suppressions de postes supplémentaires.
Voilà, mais il faut aller aujourd'hui plus loin. et il faut surtout qu'il y ait une coordination éducation nationale, collectivité. On voit aussi à travers l'enquête, c'est un point très important, ce sont aussi les conditions de vie qui vont attirer des enseignants.
Par exemple, en Seine-et-Marne. Et effectivement, c'est là que les inégalités rejoignent, cette question des inégalités rejoint la question des violences. Et d'ailleurs aussi d'un fait divers dans une école francilienne, à Créteil, qui est partie la vague de colère des enseignants, le hashtag PacVague. Et on a entendu un certain nombre d'enseignants se plaindre d'un manque de soutien de la hiérarchie, d'un sentiment d'isolement, d'un sentiment d'abandon. Donc on est loin de ce que vous disiez, il faut les choyer, il faut les former, il faut les revaloriser de façon salariale, on en est quand même loin, Nathalie Mons.
On en est loin, c'est vrai. Récemment, on a tout de même une politique de ressources humaines dignes de proximité. Je pense que là, vraiment, c'est un basculement pour ce grand ministère, ce beau grand paquebot, ce mastodonte. Donc, je pense qu'il y a quand même une vraie prise de conscience du fait que, voilà, il va falloir accompagner les enseignants. Ceci dit, lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'étranger, oui, on en est très loin. C'est-à-dire que on laisse quand même les enseignants en France tout seuls sur le front de la difficulté scolaire. Ça, c'est clair.
Est-ce que Nathalie Mons, c'est un sujet pour le CNESCO, là encore, la réforme de l'école professionnelle, du lycée professionnel?
Oui, tout à fait. C'est un sujet qu'on a déjà traité, en effet, puisque c'est un des points, je dirais malheureusement, noirs du système éducatif français. Alors, avec des grandes variations, c'est difficile de parler de l'enseignement professionnel. Justement, c'est une des difficultés, c'est que les journalistes en parlent peu, parce que c'est difficile à pénétrer, c'est un maquis. Il y a tout un ensemble de filières. Il y en a qui fonctionnent très bien, avec des niveaux d'employabilité élevés, notamment dans le milieu industriel, agroalimentaire, qui s'exportent même, avec des jeunes diplômés qui s'exportent. Et de l'autre côté, c'est vrai que le CNESCO avait pointé des difficultés tout à fait troublantes d'employabilité sur les filières de services, administration, comptabilité, où on se rend compte que des mois après la sortie de ces diplômes, notamment au niveau du baccalauréat, des bacs professionnels, les jeunes soit n'ont pas d'emploi, soit employés, notamment dans les bacs dits de commerce, sont employés dans des emplois qui ne sont pas du tout au niveau du baccalauréat, c'est-à-dire qu'on retrouve énormément de jeunes filles issues de l'immigration, de milieux défavorisés, qui sont tout simplement vendeuses dans des magasins de base. Voilà. Donc là, il y a une vraie interrogation sur l'employabilité, avec des très forts taux aussi d'abandon. Il y a quand même une partie de la réforme qui essaye de répondre à ces problèmes d'orientation en déspécialisant un petit peu le début de l'entrée dans l'enseignement professionnel. Donc je n'aurais pas une vision aussi négative.
Nathalie Mons, dans un projet de loi rendu public le 15 octobre dernier, on a annoncé que le CNESCO, que vous dirigez, que vous présidez, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, allait être démantelé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors oui, il y a un projet de loi qui a été présenté publiquement, donc au Conseil supérieur de l'éducation, et qui prévoit en effet le remplacement du Conseil national d'évaluation du système scolaire par un nouveau conseil d'évaluation de l'école qui sera davantage en charge de l'évaluation des établissements, qui est donc une des grandes promesses d'Emmanuel Macron. Ceci dit, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est tout de même intervenu pour rassurer sur l'existence du Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, et pour dire on va continuer cette activité d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'en effet, c'est important puisque ce CNESCO, il évalue les politiques scolaires. Et donc ces politiques scolaires, le citoyen a le droit d'avoir une information indépendante du ministère sur la pertinence et sur les résultats des politiques scolaires. On voit bien que là, on est face à beaucoup de politiques qui sont mises en place, qui doivent changer l'école. Évidemment, le citoyen doit avoir des éléments objectivés, extérieurs au ministère, sur ces résultats. Le ministère ne peut pas être juge et partie. Le ministère ne peut pas produire une auto-évaluation. Donc du coup, je pense qu'il y aura une suite, en tout cas, c'est évidemment attendu. Ce Conseil national d'évaluation du système scolaire,
il a 4 ans.
Il a 4 ans.
Il a été créé sous la gauche, il y a 4 ans.
Voilà, il a développé une méthode d'évaluation qui est originale et qui a été soulignée comme très positive par un dernier rapport de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce CNESCO, il marche sur deux pieds. Des évaluations scientifiques. En 4 ans, 250 chercheurs ont répondu positivement à l'appel de ce conseil pour venir évaluer avec nous hein, les résultats objectivés de l'école avec des méthodologies scientifiques. Voilà, donc on est
et
là
nous,
bien.
C'est, nous, quand vous dites nous, c'est une douzaine de membres, dont 8 personnalités qualifiées.
Voilà, hein, donc c'est toute petite structure, hein, qui ne coûte pas très cher au ministère, mais qui a réussi à faire réseau et à embarquer, hein, énormément de ressources scientifiques, hein, au service de l'école. Donc ça, c'est le premier pied, hein, c'est des ressources scientifiques. Et puis le deuxième pied, c'est que c'est une vision très particulière de l'évaluation. C'est une évaluation participative. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit ces rapports, on les soumet aux professionnels de l'école, aux parents, aux élèves, aux entreprises, aux collectivités territoriales, dans des conférences de consensus, dans des conférences de comparaison internationale, et on leur dit, ben, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Quelles sont les idées de terrain, voilà, pour pouvoir avancer? Voilà. Et ça permet vraiment de mobiliser, en fait, les acteurs de terrain, puisque c'est une vision qui n'est pas descendante de l'évaluation. On n'est pas évaluateur gendarme, on n'est pas là pour dire, ben, ça va pas, et on vous indique la route. Non. On dit juste, attention, regardez, il y a des points de vigilance, ça c'est très bien, ça il faut améliorer. Qu'est-ce qu'on a comme idée collectivement pour avancer? Donc on est vraiment sur une structure qui joue la carte de l'intelligence collective. Et ça a permis, hein, vraiment d'embarquer, hein, plusieurs milliers, hein, de praticiens qui ont réfléchi avec nous. Et ça permet vraiment de diffuser cette évaluation. Parce qu'en général, vous savez, c'est dans tous les secteurs. Lorsqu'on vous dit on va vous évaluer, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, bon, on y va avec un petit peu de réticence. Or, l'évaluation, ça peut être aussi une formule d'accompagnement. Mais encore faut-il rentrer dans une philosophie qui est bienveillante, dans une philosophie qui est positive, voilà, qui est là pour aider et non pas pour sanctionner. Et donc, ça a été la philosophie de ce conseil, ça a été le pari qui a été fait, hein, dans ce conseil.
Mais quelle est la justification d'en changer, Nathalie Mons, pour créer cette instance de l'évaluation promise par Emmanuel Macron, en effet? Si votre CNESCO fonctionne, rend des rapports qui sont utiles pour les acteurs de terrain, fait une évaluation qui repose sur l'intelligence collective et la participation. Il y a d'ailleurs eu une tribune collective signée dans Le Monde il y a une dizaine de jours pour une évaluation indépendante de l'école qui rendait vraiment hommage au CNESCO. Quelle est la justification d'en changer?
Ben, la justification d'en changer, c'est d'établir en fait une nouvelle instance qui est davantage centrée sur l'évaluation des établissements. Évaluation qui n'existe pas en France à un niveau très développé, comme ça peut en effet, hein, l'être à l'étranger. Mais je crois qu'à terme, hein, et c'est certainement ce que doit construire, hein, le ministre de l'Éducation nationale, c'est bien un système où, évidemment, on regarde ce qui se passe dans les établissements, c'est tout à fait central, mais on ne peut pas non plus se passer, hein, d'une évaluation des politiques scolaires. Voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai souci, et ça a été très bien entendu par Jean-Michel Blanquer. D'ailleurs, il a à de très nombreuses reprises souligné qu'on doit vraiment faire un lien entre la recherche scientifique et l'école. Et donc, c'est vraiment ça qu'a apporté depuis 4 ans le Conseil national d'évaluation du système scolaire, avec du coup une audience très très large parmi les professionnels et une attention très particulière sur le terrain, hein, aux recommandations du CNESCO, parce que là on parle des inégalités territoriales, mais c'est un conseil qui a travaillé aussi sur l'apprentissage de la lecture, sur l'apprentissage des mathématiques au primaire. Je citais le cas de l'enseignement professionnel, sur comment intégrer aussi les élèves en situation de handicap, donc etc., etc. Donc il y a tout un ensemble, finalement un corpus maintenant de recommandations au service de l'école, avec des éléments scientifiques mais aussi des éléments de terrain. Il y a une expertise de terrain, et donc cette expertise de terrain, elle a été mise aussi à contribution. Et je crois qu'il y a un vrai souci quand même de Jean-Michel Blanquer de garder, hein, ces éléments. Donc, bah, on attend, il faut qu'il y ait évidemment quelque chose qui soit construit.
Est-ce que, Nathalie Mons, ces rapports, ces études, ces enquêtes que vous avez menées depuis 4 ans ont servi, bien sûr, donc aux acteurs de terrain, mais ont servi également à des politiques publiques, à changer les politiques publiques, à les orienter différemment? Est-ce qu'en gros, vos rapports ne se terminent pas comme beaucoup de rapports en France, dans des tiroirs, mais vraiment ont été efficaces et utilisées?
Je crois qu'il y a nombre de ces rapports, en effet, qui ont été utilisés en politique publique. Moi, je suis spécialiste, hein, sociologue spécialiste de l'action publique. En politique publique, on dit souvent que finalement, on commence une politique publique quand on commence à travailler sur les représentations sociales, hein, autour d'une politique. Et ça a vraiment été, je pense, la pierre apportée, hein, la première pierre finalement de ce long trajet de politique publique qui a été apporté par le CNESCO, c'est de commencer à changer les représentations sociales, parce que finalement, grâce à des analyses scientifiques, on osait dire, hein, ce qui finalement se savait dans le petit milieu de l'éducation nationale, mais qui n'apparaissait pas dans la grande arène médiatique et dans l'arène de la société civile. Par exemple, que l'enseignement professionnel avait des filières qui ne conduisaient pas, hein, par exemple, à l'emploi au niveau attendu. Donc, une partie hein, de la réforme hein, de l'enseignement professionnel repart de ces constats. Voilà. Et ces constats, finalement, bah, les professionnels sont maintenant capables de les entendre parce que ce chemin-là a été travaillé. Il y a également des politiques de mixité hein, sociale à l'école. Alors, malheureusement, on le déplore, très locales pour l'instant, hein, mais qui ont été aussi conduites. Hein. On a donc toute une conférence de comparaison internationale, tout le public qui était venu à cette conférence de comparaison internationale sur la mixité sociale, qui s'est transformée maintenant en réseau. Et donc on a tout un ensemble de chercheurs, d'acteurs de collectivités territoriales, d'éducation nationale, qui aujourd'hui, dans des secteurs très particuliers, travaillent sur ces nouvelles politiques de mixité sociale. Donc oui, on voit bien que ça sert en fait à l'ensemble du système éducatif.
Il y a les évaluations des établissements, il y a les évaluations des politiques publiques et puis il y a les évaluations des élèves. Jean-Michel Blanquer a dit vouloir que les enfants soient évalués à des moments clés de leur parcours, tests d'évaluation en CP, en CE1, en 6e. Notamment, ce sont des évaluations qui avaient été supprimées par la gauche en arrivant au pouvoir en 2012. Nathalie Mons, est-ce que ce travail d'évaluation, tout le monde est d'accord là-dessus, il faut davantage évaluer également les élèves?
Alors, la réponse, elle ne peut pas être noir ou blanc. Hein. Souvent, en éducation, de toute façon, les réponses ne sont pas binaires. Hein. Oui, on a besoin d'évaluations standardisées. Alors, c'est quoi des évaluations standardisées? C'est des évaluations qui sont identiques pour tout le monde sur le territoire. Hein. Donc, le plus, évidemment, des évaluations standardisées, et la France est pionnière dans ce système hein, depuis les années 80, c'est que ça permet aux enseignants d'avoir des retours sur leurs élèves et de pouvoir les comparer à ce qui se passe ailleurs. C'est très important, notamment dans l'éducation prioritaire, parce que vous avez une partie des enseignants qui, finalement, au bout d'un moment, ne savent plus quels sont les résultats des élèves par ailleurs. Voilà. Donc ça donne un guide. Hein. On a une grande évaluation standardisée en France qui s'appelle le bac. Hein. Et on sait que ça tire vers le haut parce que tous les élèves du lycée, parce que finalement tout le monde doit atteindre les mêmes résultats. Il n'y a pas un bac du lycée de Sarcelles, de Trappes, etc. Il y a un bac national. Voilà. Donc ça c'est le point positif, donner des repères. Ce système des évaluations standardisées sert si les enseignants s'en emparent. S'ils en tirent des conclusions. C'est comme pour le CNESCO. Les gens, si les évaluations servent, si les acteurs, les parents, les élèves, les professionnels s'en emparent. Donc là, je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur la collaboration des enseignants. Ça ne peut pas être des évaluations qui tombent du ciel. Voilà, il faut que les enseignants participent.
Oui, la participation, c'est le maître mot du CNESCO, si on a bien compris.